VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire en ce mardi 12 mai 2015,
l'ancien chef de junte Moussa Dadis Camara, candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre en Guinée.
Je vous rappelle qu'un bon leader politique n'a pas d'ethnie ni de religion.
8 militaires maliens tués lundi par les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. L'ONU condamne fermement l'attaque qui viole l'accord d'Alger.
Les États-Unis et l'ONU saluent l'heureuse issue du Forum national de Bangui. Mais il faut mettre en œuvre sans délai les recommandations des accords, ont-ils souligné.
Kinshasa exige des autorités de Dar es Salaam l'extradition du chef rebelle ougandais Jamil Mukulu, arrêté le 20 avril à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici les informations.
8 militaires maliens ont été tués lundi dans une embuscade entre Tombouctou et Goundam contre un convoi militaire par les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. L'attaque a eu lieu à Acharan, une localité située à 45 km de Tombouctou, selon la direction de l'information et des relations publiques de l'armée. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA, Mongi Hamid, a condamné cette attaque qui constitue une violation de l'accord de cessez-le-feu de 2014 et des déclarations d'Alger de cessation des hostilités, a-t-il déploré. Bagassi Koura a joint Yahya Tandina, journaliste à l'ORTM, la radio nationale malienne.
C'est une mission des FAMA, les FAMA c'est les forces armées maliennes de sécurité, venant de Goundam, une équipe de relève qui devrait rallier Tombouctou et qui a été victime à 25 km au côté ouest de Tombouctou d'une embuscade. Juste quand le convoi passait, une roquette anti-char a été tirée et automatiquement les hommes étaient piégés. Ceci étant, les dégâts ont été nombreux. Nous avons remarqué la disparition de 2 véhicules, un véhicule sur le terrain brûlé, ensuite il y a eu 8 morts, 11 blessés. Les 3 légers sont au niveau de Goundam, au niveau du centre de santé de référence, et les 8 autres ont été acheminés ici à Tombouctou. Et l'armée malienne de son côté a fait aussi un prisonnier vivant que j'ai pu interviewer, qui me dit qu'il s'appelle Mohamed Agal Mouloud. Tombouctou est en deuil du moment où la plupart de ces jeunes soldats qui sont morts sur le terrain sont des ressortissants de la région de Tombouctou, ça c'est un. Et Tombouctou, c'est vrai, depuis la libération, n'a jamais connu une attaque aussi meurtrière. Certes, beaucoup de villes ont été attaquées, mais comme une embuscade de ce genre.
Notre confrère Yahya Tandina joint Tombouctou.
La secrétaire d'État adjointe américaine chargée des affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, participera mercredi à la réunion de la communauté de l'Afrique de l'Est sur la crise au Burundi, au siège de l'organisation à Dar es Salaam, en Tanzanie. Elle prendra part notamment à des réunions en marge de la rencontre afin d'exprimer la préoccupation des États-Unis sur la situation au Burundi et de réitérer le soutien américain aux accords d'Arusha et au dialogue politique entre toutes les parties pour assurer des élections pacifiques, crédibles et inclusive au Burundi. Mardi, à l'issue d'une rencontre entre des officiels occidentaux et burundais, l'envoyé spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, Cohen Verweke, a souligné que les États-Unis, l'UE et la Suisse appelaient les autorités burundaises à tout faire pour arrêter la violence autour de la question d'un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza. Le gouvernement doit respecter le droit de s'exprimer et de manifester pacifiquement, a dit M. Verweke, insistant sur la responsabilité des forces de l'ordre dans l'utilisation excessive de la force lors des manifestations. L'envoyé spécial européen a par ailleurs salué l'initiative de la réunion du 13 mai à Dar es Salaam de la communauté d'Afrique de l'Est pour se pencher sur le cas du Burundi.
Dans un communiqué publié lundi, le secrétaire général de l'ONU félicite la Centrafrique pour l'adoption du pacte républicain pour la paix, la réconciliation et la reconstruction suite à la tenue du Forum national de Bangui du 4 au 11 mai 2015. Les recommandations du pacte reflètent les aspirations du peuple centrafricain à mettre une fois pour toutes le conflit derrière lui et à construire un pays plus pacifique et plus démocratique, indique le communiqué du bureau du porte-parole de Ban Ki-moon. Monsieur Ban félicite félicite également les Centrafricaines pour la signature d'un accord sur les principes de désarmement, démobilisation et réintégration et appelle à sa mise en œuvre rapide et intégrale. À noter une mention spéciale pour les Centrafricaines de la part du secrétaire général qui se félicite du rôle de premier plan joué par les femmes tout au long du forum. Ban Ki-moon encourage ainsi le gouvernement de transition avec le soutien des Nations Unies et de la communauté internationale à mettre en œuvre sans délai les recommandations du forum de Bangui.
Et les États-Unis félicitent également les Centrafricains sur l'heureuse issue du forum de Bangui, selon les termes de Jeff Radke, porte-parole du département d'État américain. Des centaines de Centrafricains ont participé à cet événement historique, poursuit le communiqué, précisant que les Américains applaudissent cet engagement à la paix. En signant cet accord, le gouvernement et les groupes armés ont démontré qu'ils entendent l'écrasante majorité des voix de Centrafrique en faveur d'une transition politique pacifique, ajoute M. Radke, disant que les États-Unis félicitent particulièrement la signature par les groupes armés d'un accord pour mettre fin au recrutement d'enfants et libérer tous ceux qui sont actuellement dans leur rang. Cet accord est un signe d'espoir pour les enfants de la République centrafricaine qui ont trop longtemps souffert terriblement, indique le communiqué, soulignant que les États-Unis appellent toutes les parties à donner suite immédiatement à ces engagements.
En République démocratique du Congo, une ville morte illimitée est observée à Beni à l'appel de la société civile qui accuse le gouvernement de ne pas être suffisamment engagé contre les massacres commis par les rebelles ADF Nalu. Dans le même temps, Kinshasa exige des autorités de Dar es Salaam l'extradition du chef des rebelles ougandais Jamil Mukulu, arrêté le 20 avril à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. Le point avec Eddy Issango.
Les mots d'ordre ont bien été suivis à Beni pour la toute première journée de la ville morte limitée. Les leaders de la société civile annoncent que leur action se poursuivra jusqu'à ce que le gouvernement fasse quelque chose pour arrêter les massacres répétés dont la population de cette partie de l'est du pays est l'objet de la part des combattants du mouvement islamiste ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF. Kizito Binhang de la SADO à Beni indique que la société civile est révoltée de ce que rien n'ait changé depuis la promesse du président Joseph Kabila qui s'était rendu dans la zone l'année dernière après une série de massacres, lesquels massacres n'ont jamais cessé depuis. De son côté, le gouvernement attend de juger les leaders des ADF arrêtés en Tanzanie la semaine dernière. Selon Kinshasa, Jamil Mukulu, qui dirige les ADF depuis quelques temps, doit être extradé à Kinshasa plutôt qu'à Kampala. Il a commis plus de crimes en RDC que dans son pays d'origine, a indiqué le ministre des Affaires étrangères congolais, selon qui une demande d'extradition a été formellement adressée à Dar es Salaam. Les ADF ont encore tué au moins 7 personnes près de Beni la semaine dernière.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les migrants et réfugiés secourus en Méditerranée alors qu'ils tentent de se rendre en Europe ne seront pas rapatriés contre leur gré. La chef de la diplomatie de l'Union européenne en a donné l'assurance hier à New York. Le point avec Morgane Guiriec.
S'adressant au Conseil de sécurité pour la seconde fois en 2 semaines, Federica Mogherini a souligné que la crise qui contraint les migrants africains et arabes à tenter la périlleuse traversée vers l'Europe n'a pas de solution magique, mais requiert une réponse globale. Rien que cette année, plus de 1800 personnes fuyant la pauvreté, les conflits et l'oppression ont péri noyées en Méditerranée. Pas question de les renvoyer de force chez eux, a promis la chef de la diplomatie européenne.
Let me explicitly assure you that no refugees or migrants intercepted at sea will be sent back against their will.
Laissez-moi vous assurer explicitement qu'aucun réfugié ou migrant intercepté en mer ne sera renvoyé chez lui contre son gré. Leurs droits sous les conventions de Genève seront intégralement respectés. Madame Mogherini a expliqué que la Libye constitue le principal pays de transit de ces migrants. Tant qu'il n'y aura pas un gouvernement d'union nationale à même d'exercer son autorité sur l'ensemble du territoire libyen et les frontières maritimes, cette situation perdurera, avertit la chef de la diplomatie de l'Union européenne.
Un coup d'œil sur l'actualité en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Félix Yepassi-Zembrou.
L'Union européenne accorde 42 millions d'euros au Maroc. Cette aide intervient dans le cadre de la facilité d'investissement pour le voisinage de l'Union européenne en faveur du Maroc. C'est le troisième financement de ce type accordé par Bruxelles pour la réalisation du complexe solaire de Ouarzazate, l'Union européenne ayant déjà donné plus de 330 millions de dirhams pour la phase Nour 1, puis environ 440 millions de dirhams pour Nour 2. Le président français François Hollande va signer ce mardi, lors d'une visite officielle en Haïti, plusieurs accords renforçant les échanges commerciaux, énergétiques et éducatifs entre les deux pays, dont un sur l'exportation de bananes biologiques. Suite à la mobilisation d'agriculteurs regroupés en coopérative dans le nord du pays, Haïti va commencer à exporter des bananes biologiques vers le marché européen. Cet accord commercial sera entériné par les présidents français et haïtiens Michel Martelly mardi au Palais national à Port-au-Prince. Au Zimbabwe, la compagnie publique de production et de distribution de l'électricité, la ZDC, dénonce des factures impayées de la part du gouvernement et des barons du parti au pouvoir. Le gouvernement et les pontes du régime doivent à la ZDC presque $1 milliard en factures d'électricité impayées.
Merci Félix pour la Minute Éco. À présent, les sports avec Nicolas Pineau.
Quatrième tour de cycliste du Togo. Les premiers coups de pédale ont été donnés ce lundi. La première étape a emmené le peloton de Lomé à Atakpamé sur 145 km, soit la plus longue étape du circuit de cette année. Annoncé, les équipes du Nigeria et la Côte d'Ivoire ne seront finalement pas cette année au programme. 8 étapes lors de ce tour du Togo, soit un total de 1516 km. Les Burkinabés sont favoris. D'ailleurs, deux coureurs burkinabés se sont imposés à l'arrivée de cette première étape. J'ai joint Anani Asiongbon, le président de la Fédération togolaise de cyclisme.
Normalement, le tour devait prendre son départ le 13 avril, du 13 au 19, mais compte tenu de la situation politique, les élections présidentielles, ça a été reporté du 11 au 17 mai. Donc aujourd'hui, nous avions pris le départ pour la première étape qui vient de se terminer à Atakpamé avec la victoire de deux Burkinabés, premier, deuxième et le troisième, un Ghanéen. Donc, nous venons de terminer la première étape. Et tout juste après l'étape, il y a un transbordement sur Sokodé pour préparer l'étape de demain qui doit démarrer à Sotobois.
Cette année, l'équipe ivoirienne ne s'est pas déplacée?
L'équipe ivoirienne et l'équipe nigériane ne se sont pas déplacées. Comme le calendrier était faussé, donc je pense que ça a joué sur la participation des équipes. Puisque normalement, on devait avoir sur cette édition une équipe belge, l'équipe ivoirienne, l'équipe nigériane et une équipe de la Sierra Leone. Donc, ces équipes n'ont pas pu faire le déplacement. Néanmoins, nous avons eu sur cette édition une première participation d'une équipe de la RBCU.
On parle beaucoup du Tour du Faso, du Tour du Rwanda. Quelle est la spécificité, l'attrait de ce Tour du Togo, selon vous?
Le Tour du Togo, c'est un tour qui comporte des difficultés naturelles, puisque nous avons le franchissement de la faille d'Alédio, nous avons le mont Agou. Bon, cette année spécialement, compte tenu de l'état de la voie menant au mont Agou, on a choisi de faire Palimé dans Yapéyémé. Donc c'est avec le mont de Danyapéyémé qu'on a remplacé les difficultés qui sont dans le tour sur le pic d'Agou.
Voilà Anani Asiongbon, le président de la Fédération togolaise de cyclisme.
Et rappelons que ce 24e tour cycliste du Togo est composé de 8 étapes avec plus de 698 km de course. Et la deuxième étape de ce mardi 12 mai s'effectuera sur 137 km entre Sotoubois et Pia. Pour terminer, basketball nord-américain NBA, les playoffs. Hier soir, les Wizards ont perdu chez eux ici à Washington DC contre Atlanta au Verizon Center 101 à 106. Et au FedEx Forum de Memphis dans le Tennessee, les Grizzlies ont également perdu 84 à 101 contre les Golden State Warriors.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Moussa Dadis Camara est candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain en Guinée. Il a fait lui-même cette annonce lundi à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il est en exil depuis 2010. Il justifie son engagement par sa volonté de mettre fin aux souffrances de ses compatriotes. Selon lui, voici un extrait de sa déclaration.
Je m'engage en politique pour accélérer l'atteinte de l'objectif principal de notre mission commune, qu'est la conquête par la démocratie à la magistrature suprême en Guinée, afin d'apporter aux Guinéens le bien-être social. Les souffrances des Guinéens n'ont que trop duré, et il est temps d'aller affronter par tous les moyens légaux les obstacles qui assaillent sans cesse le quotidien des populations marquées de notre chère Guinée. Je vous rappelle qu'un bon leader politique n'a pas d'ethnie ni de religion. Donc, les portes du parti des forces patriotiques pour la démocratie et le développement restent grandement ouvertes à toutes les communautés et religions qui sont les bienvenues pour faire de notre parti un véritable parti national sans étiquette communautaire ni religieuse.
Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de junte guinéen, à présent des réactions de Guinéens suite à cette annonce, des réactions recueillies par Zakaria Camara à Conakry.
Moussa Dadis Camara, candidat à la prochaine élection présidentielle en Guinée, une annonce faite quelques jours seulement après une manifestation de plusieurs centaines de femmes dans le sud du pays réclamant son retour au pays. Une candidature qui fait débat à Conakry.
Pour moi, c'est bien parce que c'est un Guinéen comme nous tous. Je pense que ouais, il peut faire l'affaire aussi.
Il a le droit de se présenter en tant que Guinéen, vu les antécédents du CNDD, vu tout ce qui est en cours, est-ce que c'est pas quelqu'un qui va encombrer le pouvoir en place?
Moi, personnellement, pendant sa gouvernance, j'ai compris qu'il a été pour moi le premier président qui a gouverné honnêtement et qui peut faire mieux.
Sa candidature est la bienvenue. Elle se présente aujourd'hui. Moi, je vote pour lui parce que j'ai décidé de ne pas voter pour les autres là.
L'ex-chef de la junte au pouvoir en Guinée après le décès de Lansana Conté est cité dans la répression sanglante du 28 septembre 2009 qui a fait au moins 150 morts selon une enquête des Nations Unies. Dadis doit rendre compte à 10 ce citoyen.
Je me demande où est la justice dans ce pays. Quand j'apprends, malgré les événements du 28 septembre, que le chef de la junte se présente en tant que leader de parti politique pour les prochaines élections dans mon pays. Je suis désolé pour cette future génération qui pense à un avenir meilleur avec des gens qui sont présumés coupables de l'événement du 28 septembre.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Siguiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Le compte à rebours se poursuit au Nigeria où l'investiture du président élu Muhammadu Buhari est prévue le 29 mai. Pour sa part, le président sortant Goodluck Jonathan se dit abandonné par certains de ses amis et associés depuis qu'il a reconnu le 31 mars dernier sa défaite à la présidentielle. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint le professeur Akanbi Ilupeju de l'université de Lagos.
Lui-même devrait le savoir, ses associés, ses porte-paroles étaient des partis politiques opposants. Des personnes comme Coupé, Fanny Kayode, qui ont assuré le devant de la scène des campagnes politiques pour la présidence, pour lui. Ils devraient le savoir, ce sont des gens contradictoires.
Donc c'est une tradition politique bien établie au Nigeria.
Oui, c'est non averti. Hein? Parce que vous savez, bon, le président lui-même, il a bénéficié du parrainage d'un ancien président qui a débroussaillé le terrain pour lui. Il est tombé dans un terrain vierge et il a commencé à planter, semer, reculter, sans savoir même poser les engrais lui-même. Et maintenant, il se voit orphelin politiquement, selon lui, hein. Mais c'est quelque chose de passage. Il va s'habituer.
La semaine dernière, le représentant de l'Union européenne au Nigeria, Michel Arion, a, dans un entretien avec la presse locale, mise en garde contre le danger que le PDP se vide de toute sa substance au profit de l'APC.
Si vous avez suivi l'avènement du parti APC au pouvoir, vous allez voir, c'est le mariage de différents groupes qui ont des intérêts divers et qui ont quelque chose en commun, changer le pouvoir, parce que pour la majorité d'eux, c'est l'amour de la nation, la survie de la nation qui les a poussés à se côtoyer. Et ici, ils se sont lancés dans la création d'un nouveau parti politique qui a englobé beaucoup de têtes politiques bien formées et qui savent vraiment qu'ils ont été délaissés par la classe dirigeante qui était le PDP. Aujourd'hui, ceux qui sont restés sont des mercenaires politiques. Ils veulent maintenant s'intégrer au sein d'un parti gagnant. Les pères fondateurs ou les membres fondateurs de ce parti, ils savent bien ce qu'ils veulent. D'abord, il faut accommoder des gens de diverses opinions, mais aussi savoir qui sont les vrais militants du parti. Le président élu, il a bien souligné, il ne fera pas membre de son groupe dirigeant les gens qui ont, entre guillemets, décampé.
Le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos au Nigeria. L'islam radical est devenu la priorité des priorités sécuritaires dans beaucoup de pays. Mais dans cette idéologie islamiste, qu'est-ce qui attire tellement certains jeunes? Une question à laquelle la France aimerait sans doute avoir une réponse. Selon Paris, quelques 1500 citoyens français ont quitté leur pays pour rejoindre les groupes djihadistes au Moyen-Orient, soit le plus grand nombre en Europe de l'Ouest. Mourad Benchelali avoue ne pas avoir la réponse, mais cet ancien détenu du camp de Guantanamo est décidé à dissuader les jeunes avant qu'il ne soit trop tard. La correspondante de La Voix de l'Amérique, Lisa Bryant, l'a rencontrée à Vénissieux, près de Lyon, en France. Leur entretien vous est résumé ici par Lionel Gaïma.
Si tout s'était passé comme il avait envisagé, la vie de Mourad Benchelali aurait été fort différente et il ne serait pas engagé dans sa campagne actuelle d'aucun direct croisade contre les dangers du militantisme islamiste. Il y a 14 ans, il avait un emploi et une fiancée, mais tout a basculé quand il s'est rendu en Afghanistan et est tombé dans un piège tendu par son propre grand frère qui, au lieu des vacances promises, l'a amené dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Quelques mois plus tard, il était prisonnier dans le camp américain de Guantanamo. De retour aujourd'hui à Vénissieux, une banlieue dure de Lyon, Benchelali raconte son histoire aux jeunes gens, les exhortant à y réfléchir par deux fois avant de rejoindre les djihadistes au Moyen-Orient.
Alors, ils n'auront pas toutes les réponses, parce que moi, chaque histoire est personnelle. Mais il y a quand même quelques clés qui leur permettent de comprendre.
Selon l'analyste Mansouria Mokefi, spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, les autorités françaises sont elles aussi à la recherche de réponses.
The most important questions today are why are these young people?
La question la plus importante aujourd'hui, c'est pourquoi ces jeunes gens quittent la France et surtout quel échec en France pousse ces jeunes à aller participer à un djihad. Ce genre de questions que l'on se pose en France, mais particulièrement dans les endroits comme Vénissieux, où le taux de chômage est élevé et des trafiquants de drogue se cachent dans l'ombre. C'est là que Benchelali a grandi. C'est là que son grand frère s'est laissé séduire par l'islam radical. La duplicité de ce dernier lui a coûté cher et à cause de lui, il a passé 30 mois à Guantanamo avant son transfèrement en France. Il a écrit un livre sur son expérience intitulé « Voyage vers l'enfer ».
On disait de moi, à ma sortie de prison, que j'étais un terroriste, enfin, un islamiste radical, un danger public. J'en avais marre. Donc je voulais aussi raconter ma vérité, ma version de l'histoire.
Au début, très peu de Français étaient intéressés par son histoire, mais la peur croissante de l'islam a changé les attitudes. La mère de famille, Shahrazad Bouri, est convaincue aujourd'hui que Benchelali pourra aider à dissuader les jeunes.
Parce que nous, déjà, c'est un jeune. On sent qu'il est très franc. Il parle franchement.
de ce qu'il a vécu.
Malgré tout, l'analyste Mokefi pense que certes Ben Chelali peut aider, mais il ne peut pas à lui tout seul contrer la propagande des extrémistes islamistes.
Yes.
Oui, il peut jouer un rôle important en communiquant, en expliquant, mais dissuader, je ne suis pas si sûr. Ben Chelali a reconstruit sa vie, son calvaire s'est fini, mais il a peur que ce soit le début pour d'autres jeunes gens.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Afrique du Sud, pour la première fois, un noir à la tête du principal parti d'opposition, Alliance démocratique. Lors d'un congrès tenu à Port-Elisabeth, Mouzimemane, 34 ans, a été choisi pour remplacer Hélène Zile, 64 ans, qui avait annoncé qu'elle ne briguerait pas un nouveau mandat. Pour une analyse sur le nouveau dirigeant de l'Alliance démocratique, Timothée Donangmaï a joint à Johannesburg David Zounmenou, chercheur à l'Institut d'études stratégiques d'Afrique du Sud.
Mouzimemane est un jeune politicien qui a su gravir très rapidement les marches pour se retrouver dans la position de leadership au sein de l'Alliance démocratique. Il était jusque-là le porte-parole de l'Alliance démocratique à l'Assemblée, pressenti pour jouer un plus grand rôle. Le parti lui a accordé sa confiance. Donc c'est un jeune tribun. C'est également une gueule dans l'arène politique sud-africaine et surtout, c'est une jeunesse qui continue d'incarner les valeurs d'unité, les valeurs auxquelles, en tout cas, le parti s'est engagé depuis la fin de l'apartheid et qui veut tout faire pour briser le monopole de l'ANC sur l'arène politique sud-africaine.
Maïman devient le premier noir à diriger l'Alliance démocratique. Quelle importance revêt ce facteur ?
Je pense que l'important se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord la confiance accordée à la jeunesse au sein de ce parti conservateur. Parce qu'on a vu jusque-là, après Tony Léon, on a eu Hélène Zile, qui est une vétérane de la lutte anti-apartheid, élément qu'on a très peu souligné, et qui a essayé de porter le parti vers la communauté noire. Et c'est là que vient le second point en termes d'importance pour l'élection de Maïmane. L'Alliance démocratique s'est rendue compte que la configuration actuelle ne permettrait jamais au parti d'accéder au pouvoir. Et que si le parti devait vraiment remporter des élections présidentielles et diriger l'Afrique du Sud, il a intérêt à taper dans l'électorat noir. Et aussi, c'est un appel pour simplement renforcer la position de l'Alliance démocratique au sein de la communauté noire, au sein de la jeunesse sud-africaine, en leur offrant une autre image de ce que l'Alliance démocratique a représenté jusque-là, c'est-à-dire le parti des Blancs, dirigé par des Blancs, pour la préservation des intérêts des Blancs.
Quelles sont les chances de l'Alliance démocratique avec à sa tête Maïman face à l'ANC?
Je pense que le défi va être colossal pour lui parce qu'il y a déjà beaucoup de voix qui se lèvent pour dire que c'est une marionnette et il va être utilisé comme appât pour glaner les voix des Noirs et il ne va pas vraiment jouer un rôle substantiel dans la transformation de l'Alliance démocratique. Mais je pense que l'Alliance démocratique a une opportunité de jouer le franc jeu, de lui accorder le soutien dont il a besoin, de l'aider dans sa stratégie de conquête de l'électorat noir, blanc ou métis pour pouvoir vraiment réaliser un jour le rêve d'assumer le pouvoir.
David Zounmenou de l'Institut d'études stratégiques d'Afrique du Sud joint à Johannesburg.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon mardi à toutes et à tous.
cœur de l'info.